Laurent Burry, professeur de littérature anglaise.
Le mensonge, l'hypocrisie, ce sont des choses que beaucoup de romanciers victoriens ont, se sont plus à dénoncer. Mais en même temps, le mensonge de la part de Thackeray, c'est un peu culotté de s'en prendre au mensonge, puisque lui-même n'a fait que porter des masques pendant toute sa carrière littéraire. Il n'a fait que prendre des pseudonymes, que d'avoir des identités d'emprunt. Il s'est toujours déguisé lui-même derrière différents personnages.
Ça peut pas faire de mal.
Et en même temps, il dénonce le mensonge, mais est-ce qu'on peut pas y voir aussi peut-être une sorte de fascination pour ces personnages qui sont des imposteurs professionnels? L'héroïne de Vanity Fair, Becky Sharp, est aussi une menteuse, quelqu'un qui s'élève dans la société à force de mensonges. C'est quelqu'un qui est tout à fait condamnable selon la morale.
Mais séduit.
Voilà.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Quand le directeur du théâtre de marionnettes s'assied sur les planches devant le rideau et promène son regard sur la foire, un sentiment de mélancolie s'empare de lui à la vue de ce lieu animé. Des brutes bousculent tout le monde, des gandins lorgnent les femmes, des canailles visitent des poches, des agents de police surveillent la scène, des rustres écarquillent les yeux devant les danseuses pailletées et les pauvres vieux acrobates aux joues peintes. Oui, nous sommes bien à la foire aux vanités. Le lieu n'est assurément pas moral, ni joyeux, même si l'on y mène grand bruit. Regardez le visage des acteurs et des bouffons, le rideau va bientôt se lever. Vous aurez peut-être plaisir à assister au spectacle. On y voit des scènes en tout genre, des scènes du grand monde et d'autres appartenant à un monde vraiment très moyen. Quelques échanges amoureux pour les sentimentaux et un peu de comédie légère. Le tout accompagné de décors appropriés et brillamment illuminé par les bougies de l'auteur en personne. Que pourrait dire de plus l'organisateur du spectacle ? Il est fier de penser que ses marionnettes ont donné satisfaction au public le plus distingué de notre empire. La célèbre petite marionnette Becky a été déclarée exceptionnellement agile au bout de ses fils. La marionnette Amelia, bien qu'ayant eu un cercle d'admirateurs moins nombreux, avait néanmoins été habillée par l'artiste avec le plus grand soin. La figure de Dobbin, certes apparemment gauche, n'en danse pas moins de façon très amusante. Enfin, veuillez observer le personnage somptueusement vêtu du méchant noble, pour lequel on n'a pas regardé à la dépense, et que le malin viendra chercher au terme de cette représentation exceptionnelle. Là-dessus, en s'inclinant bien bas devant ses clients, le directeur du théâtre se retire et le rideau se lève. Ainsi s'ouvre l'un des chefs-d'œuvre de la littérature anglaise, La foire aux vanités, de William Thackeray. Auteur d'un autre roman célèbre, Barry Lyndon, immortalisé au cinéma par Stanley Kubrick, William Thackeray apparaît au XIXe siècle comme le rival de Charles Dickens pour sa peinture des mœurs de l'époque. Ce soir et la semaine prochaine, parcourons ensemble quelques-unes des 1000 pages de ce roman fleuve, publié en feuilleton entre 1846 et 1848. Découvrons cette épopée au ton satirique qui dénonce le poids de la morale dans l'Angleterre pré-victorienne. Avec un humour typiquement anglais et un art subtil de la digression, l'auteur y décrit le parcours croisé de deux jeunes femmes que tout oppose, leur origine sociale, leur personnalité, leur ambition. En montreur de marionnettes, l'écrivain s'amuse à tirer les ficelles de leur destin. Suivons donc l'ascension et la chute de ces deux jeunes filles dans l'univers impitoyable de la city londonienne qui connaît alors ses premières crises financières. Voici la première de deux émissions donc, que nous consacrons à cette passionnante foire aux vanités. Pour commencer, découvrons le portrait de ces demoiselles, Amelia Sedley et Rebecca Sharp. Avant de faire leur connaissance, évoquons l'une des premières énigmes de ce livre qui a pour sous-titre « Un roman sans héros ». William Thackeray signifie-t-il qu'il n'y a pas de héros au sens où aucun de ses personnages ne sortira indemne de la foire aux vanités, ou bien préfère-t-il les héroïnes aux héros ? Dès les premières pages du roman, l'auteur s'amuse à se faire l'observateur de la vie ordinaire. loin de tout héroïsme. Nous voici au début de l'histoire. Les deux jeunes filles, arrivées en âge de se marier, quittent la pension où elles se sont rencontrées pour faire leur entrée dans le monde. Cette scène inaugurale laisse en effet entrevoir deux tempéraments radicalement différents. Notre siècle marchait sur ses 15 ans. Par une brillante matinée de juin, une large voiture bourgeoise se dirigeait vers la lourde grille du pensionnat de jeunes demoiselles tenue par Miss Pinkerton à Chiswick Wall. Au bruit de la cloche, une douzaine de jeunes têtes apparurent aux étroites croisées de ce vieux et majestueux manoir bâti en briques. Un observateur attentif eût pu même reconnaître le nez rouge de cette bonne Miss Jemina Pinkerton, se dressant au-dessus d'une touffe de géranium qui ornait la fenêtre du salon.
C'est la voiture de Mr. Sedley, ma sœur, dit Miss Jemina. Avez-vous terminé tous les préparatifs nécessaires pour le départ de Miss Sedley, Miss Jemina? Ces demoiselles sont à emballer leur chiffon depuis 4 heures du matin, ma sœur, répliqua Miss Jemina. Puis, obéissant à l'ordre de sa sœur aînée d'aller guérir dans la grande armoire le dictionnaire d'usage, Miss Jemina tira du sanctuaire 2 exemplaires du prestigieux ouvrage intitulé « Conseil adressé à une jeune demoiselle à son départ du pensionnat de Miss Pinkerton par feu le docteur Johnson de si vénérable mémoire ». Quand Miss Pinkerton eut achevé sa dédicace sur le premier, Jemina, d'un air timide, lui tendit le second. « Et pour qui, celui-là, Miss Jemina ?» dit Miss Pinkerton avec une froideur imposante. « Mais pour Miss Sharp ?» répondit Jemina toute tremblante. « Pour Becky Sharp, car elle s'en va aussi. »« Miss Jemina !» s'écria Miss Pinkerton, comme si sa bouche eût ouvert un passage à des lettres majuscules. « Êtes-vous bien dans votre bon sens ? Remettez ce dictionnaire à sa place, et à l'avenir, ne vous avisez plus de prendre de telles libertés. » Sans hasarder une parole de plus, la pauvre Jemina sortit tout en désordre, les nerfs bouleversés. Le père de Miss Sedley était un agent de change de Londres qui vivait dans une certaine aisance. Quant à Miss Sharp, c'était une élève pauvre, reçue par charité, pour laquelle Miss Pinkerton pensait avoir déjà bien assez fait, sans lui accorder encore à son départ la haute faveur du dictionnaire. Mais à quoi bon parler de Miss Pinkerton et sa vénérable sœur ? Car il est probable, quand la grille de fer se sera fermée sur elle, qu'elles ne sortiront guère de leur retraite pour venir se mêler au personnage de ce récit. Nos rapports devant être plus fréquents avec Amelia, il n'est pas inutile de dire, dès sa première entrevue, que c'était une nature douce et bonne par excellence. C'est un grand bonheur, dans ce roman qui abonde surtout en scélérats de la plus noire espèce, d'avoir en notre compagnie une si honnête personne. Mais comme ce n'est point une héroïne, je me dispenserai de faire son portrait, car en vérité j'aurais peur que ses joues ne fussent un peu trop colorées pour cet emploi. Quoi qu'il en soit, on voyait sur sa figure s'épanouir les roses de la santé et sur ses lèvres les plus frais des sourires. Elle avait des yeux où pétillait la gaieté la plus franche, excepté toutefois lorsqu'ils se remplissaient de larmes. Et c'était bien trop souvent, car cette naïve créature éclatait en sanglots à la moindre sensiblerie. Aussi, quand vint le jour du départ, Miss Sedley, toujours entre le rire et les pleurs, se trouva fort embarrassée. Dans la cour commencèrent des scènes déchirantes. Les mots nous manquent pour une telle peinture. Tous les domestiques étaient réunis, toutes les bonnes amies, toutes les jeunes pensionnaires. Ce n'était que plaintes, embrassades, larmes et lamentations. Les adieux sont finis et nos voyageuses, ou plutôt Miss Sedley, a quitté ses amis et remercié Miss Pinkerton pour son précieux dictionnaire. Car pour Miss Sharp, elle était entrée sans bruit dans la voiture et personne ne gémissait de la perdre. Disons-le tout net, Miss Rebecca n'avait rien de doux ni de brillant dans le caractère. Petite de taille, vive de tournure, elle était pâle et avait les cheveux d'un blond roux. Auprès des grandes demoiselles de l'établissement, Rebecca Sharp pouvait passer pour une enfant. Mais elle possédait cette désolante expérience qu'on doit à la pauvreté. Orpheline de mère, elle avait eu affaire à plus d'un créancier et avait su d'un sourire les éloigner de la porte de son père, un artiste peintre sans le sou. Elle allait alors festoyer avec son père dans les tavernes où il vantait auprès de grossiers compagnons l'esprit de sa fille. Mais elle n'avait jamais été jeune fille, à ce qu'elle disait, et elle était femme depuis l'âge de 9 ans.
Tout le monde en usait mal avec elle, disait cette jeune misanthrope. Cependant, nous sommes disposés à croire que ces personnes qui sont les victimes de tout le monde n'ont en général que ce qu'elles méritent. Le monde est un miroir qui renvoie à chacun ses propres traits. Si vous froncez les sourcils en le regardant, il vous jette un coup d'œil renfrogné. Riez, au contraire, avec lui, et il se montrera bon compagnon. Si on négligeait Miss Sharp, c'est qu'elle était connue pour n'avoir jamais rendu service à personne. On ne peut trouver d'autres demoiselles aussi aimables que l'héroïne de ce roman, Miss Sedley, choisie précisément pour nous comme la mieux douée de toutes et la plus à même à vaincre en toutes circonstances les brusqueries de Rebecca. Lorsque le cocher fit claquer son fouet, Miss Jemina s'écria en s'élançant vers la grille avec un paquet « Arrêtez !» Puis se penchant à la porte de la voiture « Voici des sandwichs, ma chère, » dit-elle à Amelia. « Et vous, Becky Sharp, voici un livre que ma sœur... C'est-à-dire que je... C'est ce dictionnaire du bon docteur Johnson. Vous savez bien, vous ne pouvez pas nous quitter sans cela. Bon voyage, Dieu vous bénisse !» Miss Jemina, cette excellente créature, rentra dans le jardin, fière d'avoir rendu justice à l'orpheline. Mais au moment où le cocher fouettait les chevaux, Miss Sharp montra sa pâle figure à la portière et, avec un sourire victorieux au coin des lèvres, lança de toutes ses forces le livre dans le jardin. Miss Jemina pensa s'évanouir d'épouvante.
« Oh, je n'aurais jamais cru que tant d'audace !»
L'émotion l'empêcha de compléter sa phrase. Désormais, la voiture roulait grand train, la grille était fermée, la cloche du pensionnat retentissait pour la leçon de danse. Ainsi s'ouvrait le monde pour ces deux jeunes femmes, et c'est sur cet acte héroïque que nous disons adieu à Chiswick Mall.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. I wanna be rich and I want lots of money. I don't care about clever, I don't care about funny. I want loads of clothes and I want loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find them. And I'll take my clothes off and it will be shameless. Cause everyone knows that's how you get famous. I'll look at the sun and I'll look in the mirror. I'm on the right track, yeah, I'm on to a winner. It's about film stars and less about mothers. It's all about fast cars and cussing each other. But it doesn't matter cause I'm packing plastic. And that's what makes my life so fantastic. And I am a weapon of massive consumption. And it's not my fault, it's how I'm programmed to function. I look at the sun and I look in the mirror. I'm on the right track, yeah, we're on to a winner. I don't know. Wendy!
découvrons le premier spécimen masculin qui se présente bientôt à nos deux amis. Amelia a invité Rebecca à passer une semaine chez elle avant que celle-ci n'entre au service d'une autre famille comme gouvernante. Les voici dans la maison de Mr. Sedley, un riche négociant de Londres, donc, dans le quartier huppé de Russell Square. Rebecca fait la connaissance de Joseph, frère d'Amelia, un drôle d'animal de retour des Indes orientales. Un gros et gras gaillard, en épaisses bottes de daim à la hongroise, enseveli sous plusieurs cravates qui s'élevaient presque à la hauteur de son nez, avec un gilet rayé de rouge et un habit vert pomme, était à lire le journal au coin du feu lorsque les deux jeunes filles entrèrent. Il bondit de son fauteuil, rougit beaucoup, et à cette apparition éclipsa presque toute sa face derrière ses cravates. « Ce n'est que votre sœur, Joseph, » dit Amelia en riant. « Je suis revenue pour de bon. Voici mon amie, Miss Sharp, dont vous m'avez déjà entendu parler. »
« Non, » répondit la tête cachée sous les cravates. « C'est-à-dire, si. Il fait abominablement froid, mademoiselle. »
En même temps, il tisonnait le feu de tout son pouvoir, bien confus au milieu de juin. « Il est très bien, » dit Rebecca à Amelia, de manière à se faire entendre. « Le pensez-vous ? » reprit celle-ci. « Alors je vais le lui dire. »«
Ma chère, pour rien au monde, » dit Miss Sharp, tressaillant comme une biche effarouchée.
Rebecca, les yeux fixés par terre, était l'image de la jeunesse, de l'innocence sans appui, de l'humilité virginale. Joseph continuait à faire grand bruit avec la pelle et les pincettes, tout soufflant, tout haletant et devenant aussi rouge que sa face blême pouvait le permettre. Au même instant, entra Mr. Sedley père, secouant ses breloques comme un vrai marchand anglais.
« Cette jeune dame est votre amie, Amy ? Miss Sharp, je suis bien aise de vous voir. Avez-vous déjà avec Amy querellé Joseph sur ses intentions de sortir ce soir ?»«
C'est que j'ai promis à un ami d'aller le prendre pour dîner, » repartit Joseph.
« Allons donc. « Votre mère ne vous a-t-elle pas dit que vous dîniez ici ?»«
Mais sous ce costume, c'est impossible, mon chéri Joseph. Regardez-le un peu, Miss Sharp. N'est-il pas assez bien pour dîner partout »
Là-dessus, Miss Sharp regarda son amie et elles partirent d'un éclat de rire qui fit grand plaisir au vieux père.
« Avez-vous jamais vu chez Miss Pinkerton des bottes en peau de daim de la tournure de celle-ci ? Regardez-moi ces glands à la hongroise, » continua le père en poursuivant ses avantages.
« De grâce, mon père !» s'écria Joseph. « Je crois, Mr. Sedley, ma chère, avoir blessé la susceptibilité de votre fils. J'ai plaisanté sur ses bottes de daim. Allons, Joseph, soyez amis avec Miss Sharp et allons dîner. »« Mais, père, je ne peux pas donner le bras à ces deux demoiselles, » répliqua Joseph.
« Allons, vous êtes assez gros à vous tout seul pour faire deux cavaliers servants, » dit le père en riant.
Cette parole fit à nouveau éclater de rire Miss Sharp et le pauvre diable de Joseph eut une tentation de parricide.
« Desserrer son corset, » continua l'impitoyable railleur, « le malheureux se trouve mal. »«
Le diable m'emporte si j'y tiens plus longtemps, monsieur, » hurla Joseph.
« Faites avancer l'éléphant du seigneur Joe, » cria le père. Mais voyant Joseph prêt à éclater de dépit, le vieux plaisant cessa de rire, et tendant la main à son fils. « Vite, monsieur, donnez votre bras à Miss Sharp pour descendre, et je vous suivrai avec ces deux jeunes dames, » dit le père en prenant le bras de sa femme et de sa fille, et en sortant gaiement.
« J'aime beaucoup les bottes à glands, » dit Miss Sharp en s'approchant. Joe Sedley, qui admirait singulièrement ses jambes et portait toujours cette prétentieuse chaussure, se radoucit à cette remarque. Comme déjà dans son opinion, il se tenait pour un très beau garçon, cet éloge caressait chacune des fibres de sa grasse personne et le fit tressaillir de plaisir. Car Joseph Sedley était aussi vain qu'une jeune fille. Nous le savons bien, le sexe barbu est aussi âpre à la louange, aussi précieux dans sa toilette, aussi fier de sa puissance séductrice que la plus grande coquette du monde. Si Miss Rebecca, dès son entrée dans le monde, peut venir à bout de Joseph Sedley, c'est qu'elle est une jeune personne d'une rare habileté. Son premier début prouvait d'ailleurs une grande adresse. En disant que Joseph était bel homme, elle savait qu'Amelia le répéterait à sa mère, qui de toute manière ne lui en voudrait pas du compliment fait à son fils. Toutes les mères sont les mêmes. Et mon Dieu, de même que Mistress Sedley, dans les profondeurs de son âme maternelle, avait déjà arrangé une douzaine de plans pour l'établissement de son Amelia, de même Rebecca, fort aimable mais sans appui dans le monde, se déterminait à faire de son mieux pour s'assurer un mari qui lui était encore plus nécessaire qu'à son amie. Son imagination, très vive d'ailleurs, était en outre excitée par les lectures qu'elle avait faites dans les contes arabes. Et d'après les renseignements recueillis auprès d'Amélia sur la richesse de son frère, notre Becky bâtissait les plus magnifiques châteaux en Espagne. Elle s'affublait d'une foule de châles, de turbans, de bracelets, de diamants. Elle se pavanait sur un éléphant au son de la marche de Barbe Bleue pour aller rendre visite au Grand Mongol. 12 visions des mille et une nuits. Que de jeunes et vives créatures comme Rebecca Sharpe se sont arrêtées avec délice sur ces rêves fantastiques que l'on fait les yeux ouverts. Joseph Sedley avait 12 ans de plus que sa sœur Amélia. Il était fonctionnaire dans la Compagnie des Indes orientales, comme receveur à Boglewola, un district solitaire, marécageux et fort agréable du reste, renommé pour la chasse à la bécasse. Pendant le dîner, Miss Sharpe lui adressa plusieurs œillades, moitié tendres, moitié plaisantes. C'était la première fois de sa vie que Joe Sedley parlait sans phare à une personne de l'autre sexe. Miss Rebecca lui adressa un grand nombre de questions sur l'Inde, ce qui lui donna l'occasion de raconter plusieurs anecdotes intéressantes sur ce pays. Il n'avait été qu'une fois à la chasse au tigre, mais le cornac de son éléphant avait été arraché de son siège par un de ces animaux furieux. On l'avait ramené à moitié mort, non des morsures du tigre, mais de l'effroi qu'il avait ressenti. Que Miss Sharpe ait résolu au fond de son cœur de faire la conquête de ce gros et gras garçon, nous n'avons, mesdames, aucun droit de l'en blâmer. Car si le soin de la chasse au mari est généralement départi par les jeunes filles à la sagesse de leur mère, il faut se souvenir que Miss Sharpe n'avait nul parent d'un genre pour entrer à sa place dans ces négociations délicates. « Je n'ai plus maintenant qu'à garder le silence, » pensa Rebecca, « et continuer à témoigner beaucoup d'intérêt pour tout ce qui concerne l'Inde. » À la fin de la soirée, quand les dames se furent retirées, le rusé père de famille rejoignit son fils et lui glissa à l'oreille. « Prenez garde, Joe. Je mettrai ma main au feu que cette fille veut vous faire tomber dans ses filets. » Retrouvons Amélia et Becky quelque temps plus tard. Hélas, les deux jeunes femmes n'ont pas fait les riches mariages qu'elles espéraient. Contre toute attente, Joe Sedley n'a pas épousé l'intrigante Rebecca. Gouvernante d'un baron de province, celle-ci a épousé en secret l'héritier présumé de la famille, le bel officier Rondon Crawley, et s'est enfuie avec lui. De son côté, Amélia connaît le déshonneur suite à la faillite de son père. D'origine roturière, elle parvient à épouser contre la volonté de son beau-père aristocrate, l'homme dont elle est éperdument amoureuse, le capitaine George Osborne, ami de régiment de Rondon Crawley. Mais tous deux seront déshérités pour mésalliance. Nous voici au chapitre 22. Nos quatre jeunes gens profitent d'une brève lune de miel en compagnie du bon Joe Sedley, qui survient à leurs besoins. Entre eux, la conversation porte sur l'argent et sur l'art de s'en passer. Mais bientôt, William Dobbin, le fidèle ami de George et admirateur d'Amélia, apporte d'inquiétantes nouvelles. Que n'avons-nous le loisir de décrire Brighton ? Car Brighton a toujours l'air frais, aimable et pimpant, comme le costume d'un arlequin. Car Brighton, éloigné de 7 heures de Londres à l'époque dont nous parlons, n'en est plus qu'à une centaine de minutes et s'embellira encore davantage, à moins que la flotte française ne juge à propos de venir le bombarder. Nos nouveaux mariés étaient venus à Brighton après la célébration de leur mariage et avaient passé dans un appartement de l'hôtel de la Marine quelques jours de calme et de bonheur en attendant l'arrivée de Joe. Toutefois, ils se trouvèrent bien vite en pays de connaissance, car un après-midi, en revenant d'une promenade au bord de la mer, ils se rencontrèrent nez à nez avec Rebecca et son mari. Rebecca se jeta dans les bras de sa chère Amélia. Nos deux jeunes couples avaient beaucoup à se dire. Chacun fit à l'autre le récit de son mariage et raconta ses projets d'avenir avec une franchise et un intérêt réciproque. Le mariage de George devait être annoncé à son père par son ami le capitaine Dobbin, et le jeune Osborne tremblait un peu des suites de cette communication. « Ma chère Amélia, confia George, aurait été aimée de mon père si elle avait eu 200 000 livres de dot, comme le veut notre éducation. Dans notre société, on ne connaît que l'argent comptant. Nous vivons au milieu de banquiers, de financiers de la cité, et chacun d'eux, en vous parlant, a besoin de faire sonner ses guinées dans sa poche. Ils sont fiers de posséder dans leur rang ce lourdeau de Frédéric Bullock, qui va épouser une riche héritière, et Goldmore, le directeur de la Compagnie des Indes. Au diable, ce troupeau de rogneurs d'écus. Je ne fais que rougir dans ces fêtes ridicules données par mon père. Moi, j'ai l'habitude de vivre avec des gentilshommes, des gens du monde, et non point avec ces grossiers commerçants. Chère petite femme, vous êtes la seule personne de notre classe qui ait la tournure, les pensées et le langage d'une grande dame. C'est qu'aussi vous êtes un ange, et vous avez beau faire, il n'en sera ni plus ni moins. Et quant à vous, Roden, vous êtes un fameux gaillard pour avoir épousé la femme que vous aimez, au nez et à la barbe de votre famille. « À quel prix, cher ami ?» dit en riant Rebecca. « Vous parlez de financier, mais avez-vous jamais vu la mine d'un créancier ? Deux de ces abominables gredins sont toute la semaine à nous épier, de telle sorte que nous ne pouvons sortir que le dimanche. » Roden, avec de gros éclats de rire, affirma qu'il n'y avait pas en Europe une femme qui fût comparable à la sienne par le talent d'envoyer paître les créanciers. Presque aussitôt après son mariage, elle avait eu à recourir à ce don naturel et son mari avait pu alors l'apprécier à sa juste valeur. Ils avaient su se créer un crédit illimité, mais ils poursuivaient leur projet au milieu d'une disette absolue. Ces embarras pécuniaires jetaient-ils quelques brouillards sur la bonne humeur de Roden ? Aucun. Le meilleur moyen pour vivre au sein de l'opulence, c'est d'être criblé de dettes. On n'a rien alors à se refuser, et dans cette situation, l'esprit se trouve toujours allègre. Roden et sa femme occupaient le plus bel appartement du plus bel hôtel de Brighton. Des allures de grand seigneur, des bottes et un costume irréprochables, de l'arrogance dans la tournure, enfin une certaine rouerie pose souvent beaucoup mieux un homme que des fonds placés chez un banquier. Les deux couples ne pouvaient plus vivre l'un sans l'autre. Les parties de cartes avec George, le billard avec Joe Sedley, qui ne tarda pas à arriver dans sa grande voiture découverte, aidèrent à combler les vides de la bourse de Roden et l'ennui de leur vie oisive. Mais revenons à nos trois jeunes hommes. George Osborne, Roden Crawley et Joe Sedley, qui s'en allaient ce soir-là au-devant de l'éclair. La voiture arriva avec une exactitude rigoureuse. « Bravo, voilà Dobbin !» s'écria George, enchanté de voir son vieil ami perché sur l'impériale. Sa visite, différée d'un jour, était impatiemment attendue. « Comment vous portez-vous, mon brave garçon ? Amy va être enchantée de vous voir, » dit Osborne en donnant une cordiale poignée de main à son ami. Puis, d'une voix plus basse, « M'apportez-vous des nouvelles ?» Avez-vous été à Russell Square ? Que dit le père rabat-joie ? Ne me cachez rien. La figure de Dobbin, d'habitude si débonnaire, était pâle et grave. J'ai vu votre père, dit-il. Comment va Amelia ? Mrs. George. Vous saurez toutes les nouvelles, mais la plus grande de toutes, c'est que... Vite, mon vieux camarade, dit George avec anxiété. On nous envoie en Belgique. L'armée entière, sous les ordres du duc de Wellington, est commandée pour le départ. Nous embarquons la semaine prochaine. Ces nouvelles de guerre tombant comme la foudre sur nos amants les plongèrent dans de sérieuses et tristes méditations. Le régiment était en effet désigné pour partir, et c'est ainsi que l'empereur des Français se trouve mêlé à notre histoire, qui, sans l'auguste intervention de ce personnage muet, ne se serait point déroulée. C'était lui qui avait causé la ruine des Bourbons et celle du père d'Amelia, qui avait fait faillite en plaçant son argent en France. Pendant que la nation française et l'armée juraient fidélité à leur empereur à Paris dans le champ de mai, les quatre plus puissantes armées de l'Europe se réunissaient pour faire la chasse à l'aigle, et l'une d'elles, l'armée anglaise, comptait dans ses rangs deux de nos héros, le capitaine Dobbin et le capitaine Osborne. Bientôt, la guerre précipite le destin de nos jeunes gens. Chassés d'Angleterre par leur infortune, Rebecca et Becky décident de suivre leur mari en exil et s'installent à Bruxelles, où le train de vie des officiers prend des allures mondaines. Nous voici au chapitre 29, où Rebecca Crawley connaît son heure de gloire à l'occasion d'un bal. Délaissée par un mari volage et enclin au jeu d'argent, Amelia s'ennuie et ne se doute pas à la veille de la bataille de Waterloo qu'elle voit George pour la dernière fois. Jamais armée depuis le règne de Darius ne surpassa ou n'égala même, par les fastueuses splendeurs de son cortège, celle que le duc de Wellington commandait en 1815 dans les Pays-Bas. Les fêtes et les danses se prolongèrent, on peut le dire, jusqu'à la veille de la bataille. Le bal donné à Bruxelles le 15 juin de la susdite année par une noble duchesse est devenu historique. Tout Bruxelles fut à l'occasion de ce bal comme livré à une agitation fiévreuse et frémissante. Et longtemps après, on pouvait encore recueillir cet aveu des dames qui se trouvaient alors dans cette ville, que les préoccupations de leur sexe étaient toutes pour le bal et les plaisirs qu'il promettait, sans nul souci de l'ennemi campé à quelques heures de marche. Mr. et Mrs. Rawdon furent tout naturellement invités comme amis du général commandant la brigade de cavalerie. Grâce à ses relations, George obtint une carte pour lui et Mistress Osborne, ce qui ajouta, s'il était possible, à la vanité de ses sentiments. Il fit préparer pour sa femme les toilettes les plus élégantes, les parures les plus nouvelles. Mais la pauvre Amelia, une fois arrivée dans ce bal qui acquit par la suite une si grande célébrité, ne trouva personne à qui parler. George la déposa sur une banquette où il la laissa à ses réflexions. La pauvre femme était assaillie par les pensées les plus tristes. Et personne, à l'exception de l'honnête Dobbin, ne vint troubler le cours. Si l'échec fut complet pour Amelia, en revanche, Mistress Rawdon Crawley obtint un véritable triomphe. Elle arriva à une heure fort avancée, sa figure était rayonnante, sa toilette d'un goût exquis. Son entrée fit sensation au milieu de ces grands personnages et tous les lorgnons se dirigèrent sur elle. Rebecca paraissait aussi à son aise que si elle se fût trouvée à la tête des pensionnaires de Miss Pinkerton pour les conduire au temple. La foule des élégants et des hommes à la mode faisait cercle autour d'elle. Les dames disaient tout bas qu'enlevée par Rawdon dans un couvent, elle avait des origines françaises et était alliée avec la famille des Montmorency. Et l'on s'accordait à reconnaître que son air des plus distingués en était une nouvelle confirmation. Certes, la petite Becky était française par sa mère, mais celle-ci, loin d'appartenir à l'aristocratie, avait été danseuse d'opéra et femme de petite vertu. Ce soir-là, plus de 50 cavaliers se présentèrent à la fois, se disputant l'honneur de danser avec elle. Elle répondit qu'elle était engagée, qu'elle ne danserait que fort peu. 15 jours et 3 grands dîners avaient suffi à cette jeune femme pour se familiariser avec la langue des salons. Elle se fit enfin un passage jusqu'à l'endroit où Amy, Amelia, dans l'abandon le plus absolu, souffrait d'un cruel supplice. George avait laissé Amy sur sa banquette, mais dès qu'il aperçut Rebecca à côté de sa chère amie, il revint bien vite sur ses pas. « D'où venez-vous, mauvais sujet ?» dit Rebecca en souriant. « Vous laissez ainsi toute seule cette pauvre créature et vous allez vous divertir ?» tandis qu'elle est à pleurer comme une madeleine. Mais qui vous ramène vers nous? Venez-vous me prendre pour la contredanse? Elle se débarrassa de son bouquet et de son écharpe qu'elle laissa à côté d'Amélia et rejoignit au bras de Georges les groupes de danseurs. Les femmes seules excellent à faire de si cruelles blessures. La pointe acérée de leurs traits porte un poison 1000 fois plus dangereux que les armes émoussées et pesantes de l'homme. La pauvre Amy, dont le cœur ne connaissait ni la haine ni le dédain, était livrée sans défense aux mains de son impitoyable ennemi. George dansa avec Rebecca 2 ou 3 fois. Amelia n'aurait pu dire combien de fois, et nul ne fit attention à elle, à l'exception du capitaine Dobbin qui, vers la fin de la soirée, s'enhardit à s'asseoir à côté d'elle. Enfin, George arriva, mais il venait chercher l'écharpe et les fleurs de Becky. La pauvre enfant, silencieuse comme un marbre, vit son mari s'éloigner de nouveau. George remit le bouquet à Mistress Crawley, un billet doux s'y cachait comme un serpent parmi les fleurs. L'œil de Rebecca l'y découvrit sur le champ. Son éducation avait reçu un développement précoce pour le chapitre des billets doux. Elle tendit la main, prit le bouquet, et George put lire dans son regard qu'elle avait deviné la présence de son message. Amelia avait vu en partie la scène du bouquet. Qu'y avait-il de plus naturel ? C'était la répétition de ce qu'il avait fait 20 fois depuis quelque temps. Mais c'en était trop pour Amy. Elle n'eut pas la force d'y résister. « William, dit-elle en prenant convulsivement le bras de Dobbin qui se trouvait près d'elle, vous êtes toujours si complaisant pour moi. Je ne me sens pas bien, je voudrais rentrer. » Elle l'avait appelé sans y prendre garde par son nom de baptême. Amelia demeurait à quelques pas de là, mais dans ce court trajet, elle put remarquer dans la rue une agitation, un frémissement qui n'était pas ordinaire. George Osborne, ivre du succès galant qu'il venait de remporter, se dirigea vers une table de jeu et se mit à jouer avec une folle audace. La chance était toujours pour lui. Il apostrophait tous ceux qui l'entouraient, riait tout haut. Ce fut là que Dobbin le retrouva. La figure pâle et sérieuse du capitaine contrastait avec l'air animé et insouciant de son ami. Dobbin, tirant George à part, lui glissa quelques mots à l'oreille. George tressaillit, et après une exclamation, il posa son verre, quitta la table de jeu et partit sans plus de retard au bras de son ami. « L'ennemi a passé la Sambre, lui avait dit William. Notre gauche est déjà engagée, nous serons en marche dans 3 heures. » Un tressaillement nerveux s'était emparé de George à cette nouvelle si impatiemment désirée, mais qui venait fondre sur lui, rapide comme un coup de foudre. Combien était loin maintenant ces intrigues amoureuses, ces enivrements d'une passion coupable? 1000 pensées assiégèrent son âme, tandis qu'il regagnait ses quartiers. Il réfléchissait aux vicissitudes de sa vie passée, à la destinée que lui réservait l'avenir. Il songeait à sa femme, à l'enfant que peut-être il ne verrait jamais. Ah, combien il aurait voulu annuler les faits et gestes de cette soirée dont chaque souvenir s'élevait comme un remords. Non, il n'était pas digne d'une pareille femme. En cas de malheur, que lui laisserait-il? Son mariage remontait à quelques semaines au plus, et déjà il ne lui restait plus rien de sa modeste fortune. Mais aussi pourquoi aller se marier? Les devoirs de mari n'allaient ni à son caractère, ni à ses goûts. Pourquoi avait-il désobéi à son père, toujours si généreux envers lui? L'espérance, le remords, l'ambition, la tendresse, mêlées d'un peu d'égoïsme, soulevaient tumultueusement son âme lorsqu'il entrouvit la porte de sa chambre pour contempler une dernière fois le visage d'Ange d'Amélia.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Sitting on the sea, soaking up the sun. He is a real lover of making up the past and feeling up his girl like he's never felt a figure before. A Joe Draper looks good when he walks, is the subject of their talk. He would be hard to chase, but good to catch, and he could change the world with his hands behind his back. Oh, you can find him sitting on your door. Behind his back, oh. There's no way out. can tell that he'll be there for all life.
Pour conclure cette première émission, découvrons comment la grande histoire s'invite dans notre petite histoire. La nuit du prestigieux bal s'achève au son des clairons. L'heure est grave. Voici la description de la célèbre bataille de Waterloo par William Thackeray, qui signe dans ce chapitre 30 un plaidoyer contre l'absurdité des guerres fratricides. Roman sans héros, la foire aux vanités rend ici hommage au héros de l'un des plus grands conflits de son époque. Nous n'élevons pas nos prétentions jusqu'à vouloir prendre rang parmi les chroniqueurs de la bataille. Notre place est marquée loin de la mêlée et nous y tenons. À quoi bon venir nous jeter à la traverse des manœuvres que de braves gens exécutent au-dessus de nos têtes? Ainsi donc, tout le jour, du matin jusqu'après le coucher du soleil, le canon ne cessa de gronder. Il faisait nuit quand la canonnade s'interrompit tout soudain. Nous connaissons tous par des oui-dire ou par nos lectures le choc terrible qui, pendant ce temps, avait lieu à quelques heures de Bruxelles. Le souvenir de cette fameuse journée est resté gravé dans le cœur de tous les braves soldats qui, vainqueurs ou vaincus, prirent part à cette grande bataille. Faudra-t-il qu'une nouvelle lutte donnant la victoire à ceux qui pleurent encore leur défaite fasse succéder nos enfants à un héritage maudit de haine et de vengeance ? Faudra-t-il ne voir jamais terminer ces massacres dans lesquels deux nations généreuses arrosent les champs de bataille du plus pur de leur sang? Depuis tant de siècles de lutte et d'égorgement, Anglais et Français n'ont-ils pas payé assez chèrement leur tribut à cette loi diabolique qu'on appelle le Code de l'honneur? Si pour une seule bataille, où nous n'avions que 20 000 hommes engagés, l'émotion était si forte dans tous les cœurs, on peut se faire une idée de l'état de l'Europe pendant 20 années de boucherie, alors que chaque nation envoyait des millions d'hommes sur les champs de bataille et que chacun d'eux, en frappant son adversaire, mettait une famille au désespoir. Tous nos amis se conduisirent en hommes de cœur dans cette grande journée, tandis que les femmes agenouillées priaient loin des théâtres des opérations, les lignes inébranlables d'infanterie anglaise essuyaient et repoussaient les charges furieuses des régiments français. La fusillade dont les roulements arrivaient jusqu'à Bruxelles portait la mort au milieu des rangs ennemis. Ceux qui tombaient étaient aussitôt remplacés par d'autres aussi résolus à faire leur devoir. Vers le soir, l'attaque des Français, si bravement conduite, si énergiquement repoussée, sembla se ralentir un peu. Puis, à un signal donné, les colonnes de la garde impériale commencèrent à escalader le mont Saint-Jean, sans paraître entamées par l'artillerie anglaise qui vomissait la mort au sein de nos bataillons. Déjà, elle attaquait le sommet occupé par les Anglais quand soudain elle s'arrêta face au feu. Enfin, les Anglais repoussèrent leurs agresseurs en s'élançant du poste d'où nul ennemi n'avait pu les déloger. Aucun bruit n'arrivait plus à Bruxelles. La lutte s'était engagée à quelques milles plus loin. D'épaisses ténèbres couvraient de leurs voiles la ville et le champ de bataille. Amélia adressa au ciel de ferventes prières pour son bien-aimé, et Georges, couché sur la face, gisait sans vie, le cœur traversé d'une balle. Nous voici parvenus à la moitié du roman de William Thackeray. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir quel destin attend Amélia et Rebecca dans cette tumultueuse foire aux vanités.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Jean-Louis Deloncle. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laurel Maki et Irène Menahem. Bonne soirée et à la semaine prochaine.